Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur le Moyen-Orient pour cette édition en partenariat avec la revue Question Internationale qui constate dans son dernier numéro que le Moyen-Orient est sans doute le plus grand échec des relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale, concentrant une multitude de facteurs de tension, qu'ils soient d'ordre politique, culturel, économique ou religieux, théâtre de conflits durables sans que des interventions extérieures n'aient pu y mettre fin quand elle ne les aggrave pas. Conflit qui semble insoluble à une échéance prévisible. Regard avec nos invités par téléphone. François Nicoulot, spécialiste de l'Iran, analyste de politique internationale et auteur du blog À Contre-Courant. Bonjour.
Bonjour.
Alain Diekhoff, spécialiste d'Israël, directeur du CERI et directeur de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Jean Marcou, spécialiste de la Turquie, professeur et directeur de relations internationales à Sciences Po Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Sûr, professeur émérite à Paris 2, directeur de l'annuaire français de relations internationales et coordinateur de la revue Question Internationale. Bonjour.
Bonjour.
Serge Sûr, vous attaquez ce numéro double de Question Internationale consacré au Moyen-Orient en y allant assez directement. Vous dites que le Moyen-Orient est le Las Vegas sanglant des relations internationales et un tombeau du droit international.
Oui, d'ailleurs, les deux choses vont de pair. Évidemment, la comparaison avec Las Vegas est purement métaphorique, mais on pourrait dire que le Moyen-Orient, c'est comme Las Vegas, l'espace de toutes les transgressions. On sait bien qu'à Las Vegas, on peut faire absolument tout et que tout d'un coup, le droit semble s'effacer. Mais il y a tout de même deux différences. La première différence, c'est que ce qui se passe à Vegas, en principe, d'après le dicton, reste à Vegas. Et ce qui se passe au Moyen-Orient ne reste pas au Moyen-Orient, puisque ça déborde très largement à l'extérieur, que ce soit sur les voisins ou que ce soit beaucoup plus largement, notamment à l'égard de l'Europe. Et puis, Las Vegas est un espace ludique, alors que le Moyen-Orient, c'est un espace qui est plutôt sanglant. Mais c'est aussi le tombeau du droit international. Et dans ces deux dimensions en matière de sécurité, pour ce qui est du jus ad bellum, c'est-à-dire du droit de recourir à la force et de l'emploi de la force, on a le sentiment que là, le droit international cesse de s'appliquer. Et les différents participants, que ce soit des États ou des acteurs non étatiques, recourent à la violence de façon tout à fait libre, sans se préoccuper en aucune façon des contraintes juridiques que les autres États, d'habitude, s'efforcent de respecter. C'est vrai pour le recours à la force, c'est vrai aussi pour l'emploi de la force. On a le sentiment que le Moyen-Orient est un laboratoire de la conflictualité et que toutes les formes de violence y sont utilisées, que ce soit des formes privées, que ce soit des formes internes, que ce soit des formes internationales. Ça va du terrorisme aux assassinats ciblés, à l'emploi d'armes chimiques, à la menace des armes nucléaires. Donc nous avons toute la gamme des moyens de nuire à autrui qui sont employés dans cette région et on a le sentiment que le droit international baisse les bras face à cette situation qu'il ne peut pas grand-chose. Alors, ce qu'il faut noter aussi, me semble-t-il, c'est que parallèlement au laboratoire de la conflictualité, le Moyen-Orient a été un laboratoire du maintien de la paix. C'est-à-dire qu'on a tenté un certain nombre d'expériences dans cette région pour mettre fin au conflit, ou tout au moins en atténuer la portée. Alors je vais en prendre quelques exemples. Le Moyen-Orient, ça a été l'origine des opérations du maintien de la paix. Première opération du maintien de la paix, 1956.
Opération onusienne.
Opération des Nations Unies, qui ont connu ensuite un très grand développement et sont toujours actives. Mmh. Alors il reste aujourd'hui dans ces opérations le Liban, la finule au Liban, mais c'est à peu près tout. Ça a été aussi une autre forme de laboratoire, l'accord de 93 entre les Palestiniens et Israël. Et cet accord, on le sait, a tourné court. Ça a été aussi, après la guerre du Koweït en 91, ça a été la mise sous contrôle de l'Irak par une commission du Conseil de sécurité, l'UNSCOM, qui était chargée du désarmement. Et là, on rôdait en quelque sorte une technique de désarmement, de surveillance et de réalisation du désarmement par un organe international. Eh bien, l'UNSCOM a également tourné court et n'a pas empêché qu'il y ait la guerre en 2003. Et puis enfin, c'est l'accord de 2015 conclu entre l'Iran et les six partenaires, cinq membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Et on sait que cet accord a été rejeté par les États-Unis, par l'administration Trump. Il semble que l'administration Biden à venir souhaite revenir dessus, mais je pense que ça soulèvera pas mal de difficultés.
Alors, quelle redistribution des cartes au Moyen-Orient avec la victoire de Joe Biden aux États-Unis ? Au Moyen-Orient, deux peuples ont perçu la victoire de Joe Biden comme un signe d'espoir, les Palestiniens et les Iraniens. 4 ans d'administration Trump ont en effet mis un coup d'arrêt pour les premiers à l'avancée des négociations pour obtenir un État existant aux côtés d'Israël, pour les seconds à la normalisation d'une situation économique internationale pénalisée par des séries de sanctions. Alors, entre le retrait du JCPOA et la campagne de pression maximale sur l'Iran, ainsi que le plan de paix pour le Proche-Orient présenté en janvier 2020, ces dernières années ont pour le moins sérieusement concentré des décisions américaines pas très favorables pour ces deux acteurs du Moyen-Orient, on va en parler, et plus largement pour la stabilité de la région. Alors, Donald Trump laisse à Joe Biden une région finalement mise en ordre de bataille contre l'Iran. Les accords de normalisation passés entre Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn participent d'une réorganisation stratégique dans laquelle Israël et les monarchies du Golfe sont en mesure de tenir Téhéran en respect. D'ailleurs, Israël, on va en parler avec Alain Diekhoff, a payé le prix de ce coup géopolitique en acceptant du bout des lèvres que son allié américain vende des avions de chasse F-35 aux Émiratis. Finalement, et je me tourne vers chacun par téléphone, quels dossiers majeurs sont à suivre durant ces 2 mois de transition ? On va peut-être démarrer avec vous, François Nicoulot, étant donné l'actualité qui ne cesse de rebondir, je pense en particulier à l'assassinat en Iran de Monsieur Fakhrizadeh. L'Iran, dossier le plus à suivre dans ces 2 mois de transition avant la prise de fonction de Joe Biden le 20 janvier 2021 à Washington.
Oui, sans doute. On sait très bien que Trump essaie de compliquer au maximum la vie de Biden, de son successeur, donc, et d'empêcher qu'on détricote sa propre politique de pression maximale à l'égard de l'Iran. Alors, ira-t-il jusqu'à une provocation qui pourrait entraîner un début de conflit? C'est ce que pas mal d'observateurs craignent. Pour ma part, je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Je pense tout simplement que même que l'état-major américain, comme il l'a fait dans le passé, marquera son refus de prendre de tels risques. En revanche, il y a d'autres sujets de préoccupation. Et assez curieusement, d'ailleurs, ça a été peu souligné encore, mais le principal sujet de préoccupation, à mon avis, vient d'Iran, parce que le Parlement conservateur vient de voter une loi qui, si elle est appliquée, ruine totalement toute possibilité de compromis et de solution sur ce fameux accord nucléaire, ce fameux JCPOA. Et en effet, le Parlement intime au gouvernement d'accélérer la production d'uranium enrichi, de lancer la production d'uranium à 20%, de relancer la fabrication d'un réacteur à eau lourde fortement plutonigène, de sortir dans les 2 mois de l'application du protocole additionnel de l'AIEA qui permet des contrôles renforcés sur le programme iranien. Enfin, toute une série de provocations de ce genre qui fait que si elles sont mises en œuvre, et pour le moment, le projet de loi, la proposition de loi, puisqu'elle a été élaborée dans le Majlis ultra-conservateur, donc pour embarrasser Rouhani, et sur la table de Rouhani, à la signature de Rouhani. Ça, c'est vraiment un problème. On ne sait pas très bien comment Rouhani va arriver à se dépêtrer de cette bombe qui lui est mise sous les pieds, alors que lui souhaite effectivement que les États-Unis reviennent au JCPOA, que les sanctions soient levées. Tout ça, ça rend la situation extrêmement compliquée.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, François Nicoulot, il est vrai que ce projet de loi donc adopté est un texte finalement qui était proposé en réaction à l'assassinat du chercheur iranien Mohsen Fakhrizadeh, dont on parlait à l'instant. Et je pensais que finalement tout cela ne changerait pas grand-chose à la politique iranienne en la matière, puisque ces décisions sur le nucléaire relèvent davantage du Conseil suprême de sécurité nationale.
C'est la thèse qui avait défendu le gouvernement disant assez justement, en fait, ça relève de l'exécutif, tout simplement, ce genre de décision, et le Parlement n'a pas à pénétrer dans le domaine de l'exécutif. Mais malheureusement, le Conseil des gardiens de la Constitution, qui est en quelque sorte le Conseil constitutionnel, si vous voulez, a approuvé cette loi, et maintenant, Rouhani est véritablement coincé. Enfin, j'espère qu'il trouvera une façon de s'en sortir, mais voilà, c'est le premier obstacle qui se pose pour une reprise des négociations avec les États-Unis. Alors, il y a toujours l'espoir, effectivement, que Biden fasse le premier pas en levant au moins un certain nombre de sanctions. Mais voilà, il y aura une période compliquée, tout le monde va s'attendre. Les Iraniens disent c'est aux Américains de faire le premier pas, puisque ceux qui sont sortis de l'accord, Biden dit « Moi, je suis prêt à revenir dans le JCPOA ». Si les Iraniens reviennent eux-mêmes à une stricte application de l'accord, puisqu'ils avaient fait un certain nombre d'infractions à cet accord. Et surtout, alors Biden dit, moi je veux rentrer dans le JCPOA pour l'améliorer, pour le transformer, pour l'élargir à d'autres sujets, pour ne pas se limiter au nucléaire, mais parler du balistique, parler de l'influence de l'Iran dans la région. Tout ceci soulève des problèmes assez redoutables. Donc ça va être un petit peu compliqué, d'autant plus que la fenêtre utile pour Rouhani, c'est maintenant, hein, les élections présidentielles ont lieu au mois de juin. Voilà, il y a à peu près 4 mois utiles. Alors certes, Rouhani reste en fonction jusqu'au début septembre, en gros, mais une fois les élections passées, effectivement, il n'est plus qu'un gestionnaire d'affaires courantes. Donc c'est maintenant qu'il faut vraiment avancer, ou alors sinon ça va devenir extrêmement compliqué.
Alors, fenêtre utile entre la prise de fonction de Joe Biden à Washington le 20 janvier prochain et effectivement ces élections présidentielles en Iran de juin prochain. D'Iran, je passe à Israël, et on va très vite comprendre pourquoi. Alain Diekhoff, Israël a le surnom de 51e État américain. Selon un sondage, les Israéliens étaient plus de 50% à souhaiter la victoire de Trump, alors que seulement 21% d'entre eux espéraient voir Biden lui succéder. La question est entre autres de savoir si l'élection de Biden est une mauvaise nouvelle pour Netanyahou. Dans l'actualité récente, on a vu Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, faire une tournée d'adieu. Il est passé en Europe, il est allé au Moyen-Orient, en Israël notamment. Il s'est rendu sur le plateau du Golan, dont l'annexion par l'État hébreu a été reconnue par la seule administration Trump au mépris du droit international, ainsi que dans une colonie israélienne de Cisjordanie. Pour ce qui est des actions menées par Donald Trump en 4 ans à la Maison-Blanche, on peut rappeler donc effectivement, la question de la souveraineté israélienne sur le Golan, la reconnaissance de cette souveraineté par Donald Trump, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et l'aval donné à la colonisation. Est-ce qu'un retour en arrière sur ces questions est possible avec Joe Biden à la Maison-Blanche, Alain Diekhoff?
Non, il n'y aura pas de retour en arrière, en tous les cas, certainement pas sur la question de la reconnaissance du Golan, ni encore moins sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et sur le transfert de l'ambassade. Donc sur ces plans-là, je pense que Biden, en un certain sens, est peut-être, surtout sur la question de Jérusalem, soulagé que Trump ait fait ça et que ça évite aux démocrates d'avoir à se prononcer sur cette question. Là où il y aura sans doute une inflexion, c'est évidemment par rapport au plan que Donald Trump a présenté en janvier 2020, donc sa fameuse vision de la paix, et en particulier sur la question de l'aval qui avait été donné théoriquement aux Israéliens pour annexer à peu près 35% de la Cisjordanie à Israël, c'est-à-dire en gros l'espace dans lequel se trouve la centaine de colonies juives qui ont été installées depuis 1967. Donc sur ce plan-là, oui, il y aura certainement une sorte de retour en arrière, mais en même temps, il faut bien voir que cet aval est resté purement théorique, puisque pour des raisons qui sont alors là plutôt liées à la politique israélienne, Netanyahou n'a pas pu ou n'a pas voulu finalement au mois de juillet dernier, alors qu'il aurait pu le faire, mettre en œuvre cette disposition. La raison pour laquelle il ne l'a pas faite, c'est ça n'est évidemment pas par égard pour les droits des Palestiniens, mais simplement parce que il s'est rendu compte que ce serait peut-être pas aussi évident que ça d'aller jusqu'au bout de cette logique d'annexion, parce qu'elle aurait soulevé à la fois des problèmes juridiques sur le statut des Palestiniens présents dans ces 30 à 35%, même s'ils sont minoritaires, il y en a quand même dans ces zones-là. Et ensuite, il y avait aussi un problème purement politique, là pour le coup, à savoir que les partis les plus à droite sur l'échiquier politique avaient dit que même finalement le plan Trump était déjà une concession aux Palestiniens et qu'ils allaient mener la vie dure à Netanyahou s'il acceptait finalement ce qui leur apparaissait comme un compromis. Donc finalement, le résultat de tout cela, c'est qu'il n'a pas bougé et il a préféré maintenir le statu quo qui finalement arrange finalement le gouvernement israélien. Finalement, c'est encore le plus simple à gérer plutôt que de se lancer dans une aventureuse annexion qui s'attirerait au moins les critiques de la plupart des pays du monde, même si ça reste des critiques rhétoriques. Mais bon, voilà, pourquoi finalement se compliquer la vie alors qu'il est peut-être un peu plus simple de rester tout simplement avec la situation telle qu'elle existe. Donc, pour me résumer sur la question de Biden, certainement une inflexion, mais pas beaucoup plus, à mon sens, et certainement pas de retour en arrière sur les deux points que j'ai évoqués, le Golan et Jérusalem. Et a priori, en tous les cas, dans un premier temps, je pense que l'administration sera très, très réservée sur cette question israélo-palestinienne qui, pour tout un tas de raisons, est objectivement devenue périphérique au Moyen-Orient. Elle n'intéresse plus grand monde, à part les Palestiniens eux-mêmes, évidemment, mais sinon les autres États ont bien d'autres soucis et on le voit bien, évidemment, dans la normalisation quelque part spectaculaire d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui montre que le Moyen-Orient, aujourd'hui, a quand même profondément changé. Et que, bien sûr, dans ce changement, dans cette transformation en profondeur, évidemment, on est à 100 lieues de la centralité que la question palestinienne avait dans les années 1970.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur cette entente entre Israël et les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, et on posera la question aussi de savoir ce qui va se passer avec l'Arabie Saoudite, tout cela en lien avec l'Iran. Mais je n'ai pas oublié Jean Marcoux au téléphone depuis Grenoble. Alors, il y a une autre personnalité de la région qui, avec le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, perd un allié de poids, c'est M. Erdogan. Alors, on l'évoquait dans l'émission d'hier consacrée à l'OTAN. La Turquie a été soumise à un feu de critiques la semaine dernière à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 30 pays membres de l'OTAN. Elle a même été lâchée par les États-Unis. La surprise venant du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a dénoncé les manquements aux règles de l'Alliance et la politique du fait accompli mené par Ankara dans plusieurs crises régionales. Mike Pompeo a été très cash pour sa dernière réunion à l'OTAN en demandant à la Turquie de revenir à un comportement d'allié. Alors c'est vrai que les agissements turcs avaient été dénoncés lors du sommet de Londres en 2019 par le chef de l'État français, mais le président Trump avait lui protégé et défendu le président Erdogan. Jean Marcoux, en deux minutes, mais on reviendra dessus, bien sûr, dans la deuxième partie de l'émission. La Turquie est désormais perçue comme un problème pour l'Alliance Atlantique, ce qui a été nié jusqu'à présent, et ce problème, il va falloir le régler.
Oui, et d'ailleurs, actuellement, la Turquie est très inquiète sur les changements qui se profilent, non seulement sur ce qui va se passer avec les États-Unis, mais également sur ce qui va se passer avec l'Europe très prochainement, puisqu'il y a un sommet à la fin de l'année européen qui va statuer sur la situation méditerranée-orientale. La Turquie est inquiète d'autant plus que les démocrates, pendant la campagne électorale, ont fait des critiques très fortes quant au système politique turc, parlant de dictature. Et Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre des représentants au Congrès, a même dit qu'il était temps d'être dur avec la Turquie. Donc effectivement, la Turquie est inquiète. Mike Pompeo, et d'ailleurs, on a l'impression que l'administration Trump, en fin de...
Se lâche.
Se lâche, alors même qu'elle avait protégé la Turquie. Il faut dire que Mike Pompeo a été très mal reçu en Turquie il y a 15 jours. On peut dire qu'il n'a même pas été reçu, puisque aucun responsable politique turc important n'a reçu Mike Pompeo, qui a dû, à Istanbul, finalement se contenter de rencontrer le patriarche Bartholomée II.
Jean-Marco, je vous interromps. Oui. Je vous laisse la parole pour entamer la deuxième partie de l'émission sur les inquiétudes de la Turquie. On vous retrouve, François Nicoulot, Jean-Marco, Alain Diekhoff et Serge Sur, après le journal. À tout de suite.
Priorité géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur le Moyen-Orient pour cette édition en partenariat avec la revue Questions internationales qui constate dans son dernier numéro que le Moyen-Orient est sans doute le plus grand échec des relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous retrouvons nos invités par téléphone. François Nicoulot, spécialiste de l'Iran, analyste de politique internationale et auteur du blog À Contre-Courant. Alain Diekhoff, directeur du CERI, spécialiste d'Israël et directeur de recherche au CNRS. Jean-Marco, spécialiste de la Turquie, professeur et directeur de relations internationales national à Sciences Po Grenoble, et Serge Sur, professeur émérite à Paris 2, directeur de l'annuaire français de relations internationales et coordinateur de la revue Questions internationales. Jean-Marco, j'ai été obligé de vous interrompre à la fin de la première partie de l'émission. On évoquait les inquiétudes de la Turquie. Il est vrai qu'avec le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, Erdogan perd un allié de poids.
Oui, et je disais effectivement qu'il y a eu une sorte de revirement, d'ailleurs, ces dernières semaines, quant à la position de l'administration Trump à l'égard de la Turquie, parce que cet été, même au printemps, on avait vu les États-Unis soutenir, en fait, la Turquie en Libye, et on se demandait quelle serait véritablement l'attitude de la Turquie en Méditerranée orientale. Et on a bien vu que les États-Unis, progressivement, tenait un discours de plus en plus ferme vis-à-vis d'Ankara. Ils envisagent d'ailleurs un déplacement de leur base militaire et la création d'une base militaire en Crète. Hein, et on a bien vu de ce point de vue-là que l'idylle entre finalement l'administration Trump et la Turquie était en train de s'effriter justement en fin de mandat Trump. Donc il y a là une période qui est un peu une période d'incertitude pour Ankara, au moment même où Ankara a pris des initiatives certes audacieuses en Syrie, en Méditerranée orientale, en Libye et plus récemment dans le Caucase, mais le problème, je crois, de la politique étrangère turque, c'est qu'il y a une suite de coups tactiques que Erdogan affectionne particulièrement et qui paraissent en fait réussis et qui en même temps, finalement, au bout du compte, ne constituent pas une véritable stratégie parce que finalement, la Turquie a des relations avec tout le monde, mais elle a des relations complexes avec tout le monde et on vient de voir comment elle joue encore sur ses relations entre l'Orient et l'Occident, entre ses alliés occidentaux et la Russie dans le Haut-Karabakh, dans le Caucase, puisque en réalité, ce qui s'est passé dans le Caucase, c'est à nouveau un véritable accord tactique entre la Russie et la Turquie. C'est effectivement bien joué, mais ça risque aussi de déplaire à l'administration américaine. Par-dessus le marché, il y a des dossiers non réglés. L'administration Trump part en laissant des dossiers non réglés, des dossiers qui concernent l'armement et donc directement l'intégration de la Turquie dans l'OTAN, en particulier le dossier des missiles de défense F-400.
Achetés à Moscou.
Et en plus, finalement, on s'est aperçu que la Turquie avait profité de l'élection américaine pour tester en réalité ces missiles. Et donc là, il va y avoir un sujet très très chaud immédiatement. Et malgré la bonne volonté affichée par la Turquie vis-à-vis de l'administration Biden, il risque d'y avoir au Congrès des gens qui vont demander des comptes sur ce sujet-là, qui est celui des missiles de défense, et aussi qui vont se positionner sur l'avenir de l'avion F-35, en tout cas de la participation, de l'achat par la Turquie de l'avion F-35 et de sa participation dans le consortium. Et l'absence de fourniture d'un avion de haut niveau pour la Turquie risque aussi d'être un sujet de conflit avec les États-Unis.
Alors, est-ce la question qui se pose? Il y en a plusieurs de questions. Est-ce que Erdogan n'est pas allé trop loin? Est-ce que ce n'est pas une stratégie dangereuse pour l'économie turque? En tout cas, il est certain que l'équilibre des forces au Moyen-Orient, ce sera l'une des préoccupations de Joe Biden au nom des intérêts américains. Est-ce qu'il cherchera, Joe Biden, à maintenir des tensions avec la Turquie ou pas? Tout cela fonction également du Congrès américain, vous l'avez dit, Jean Marcou, avec cette élection, la Géorgie devant revoter le 5 janvier, ce qui permettra de déterminer une majorité d'un côté ou d'un autre, républicain ou démocrate, au Congrès. Serge Sûr, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur la Turquie?
Oui, dire simplement qu'on parle de la Turquie, mais en réalité c'est le régime Erdogan. Et le régime Erdogan, ce n'est pas forcément toute la Turquie, parce que c'est un régime qui est malgré tout assez contesté, de plus en plus contesté à l'intérieur. Alors là-dessus, je voudrais faire deux observations. Une première observation, précisément sur la nature du régime qui est de moins en moins démocratique. Et il est très surprenant de voir que le Conseil de l'Europe, qui est en principe un organe voué à la défense de la démocratie et des droits de l'homme, soit resté à peu près silencieux sur cette affaire. Mmh. On doit noter tout de même qu'il y a un abaissement des standards démocratiques au sein du Conseil de l'Europe, ce qui ne manque pas de poser des problèmes pour les Européens. Et puis sur le plan international, je rejoins tout à fait l'observation de Jean Marcou, les coups tactiques. On a un peu le sentiment que la Turquie n'a pas réussi à définir une politique alternative par rapport à son adhésion à l'Union Européenne. Ça a été pour elle un rude coup, parce que depuis des dizaines d'années, au fond, elle était tournée vers le choix européen. Et l'Europe lui a fermer la porte. Et on voit bien que maintenant, il s'efforce de trouver une autre politique. Alors, il y a un axe virtuel avec l'Iran et la Russie, le processus d'Astana, qui est évidemment totalement étranger et même contraire à l'OTAN, mais on a le sentiment que dans ces coups tactiques, c'est un petit peu comme une guêpe qui se heurte au vitrage, mais qui n'arrive pas à trouver de solution. Donc, on a le sentiment qu'il y a une série d'impasses pour la Turquie.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, je reviens à la question que on a évoquée dans la première partie de l'émission de façon séparée, la question israélienne. Dans l'actualité récente, il y a cette visite historique de Benjamin Netanyahou en Arabie Saoudite et sa rencontre avec le prince héritier MBS, rapprochement qui intervient après que les Émirats arabes unis ont décidé à la mi-août d'ouvrir des relations diplomatiques avec Israël, suivi du Bahreïn en septembre et du Soudan en octobre. Question pour François Nicolau et Alain Diekhoff, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël n'a-t-il pour raison que l'hostilité commune envers l'Iran?
Oui, enfin,
François Nicolau.
Oui, ben, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que cette normalisation elle est quand même plus compliquée qu'on veut bien le croire. L'Arabie Saoudite n'a pas franchi le pas de la normalisation. Il y a eu une rencontre qui est animée par MBS, donc le prince héritier, dont on sait les sympathies à la fois pour Israël et qui essaye encore de plaire à l'administration américaine. Mais le roi d'abord s'y oppose. L'Arabie Saoudite, quelle que soit la spécificité, disons, de son régime, a quand même une opinion publique, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même des Émirats Arabes Unis ou même de Bahreïn. Hein. Rappelons qu'aux Émirats Arabes Unis, plus de 80% de la population est formée d'étrangers. Hein. Pour Bahreïn, la proportion est supérieure à 50%, ce qui rend quand même beaucoup plus facile de sauter le pas, parce que on est certain que les réactions de la base, disons, de la population, seront quand même nettement atténuées. Alors, pour des pays, on l'a vu, comme l'Arabie Saoudite ou le Soudan, ça devient tout à coup beaucoup plus compliqué. Voilà, ça, je voudrais quand même souligner ce point. Ça arrivera peut-être, mais pas tout de suite. Et en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis, ce rapprochement, peut-être, enfin, je ne crois pas qu'il soit dirigé contre l'Iran. Les Émirats Arabes Unis ont été très prudents à l'égard de l'Iran. Ils ont compris que tout conflit dans la zone serait un désastre pour tout le monde, hein, pour les exportations pétrolières, etc. Donc, il est prudent. Hein, il a lancé des antennes, hein, du côté des Iraniens. Et il y a des contacts. Hein, pour Bahreïn, c'est encore... Enfin, Bahreïn est tout petit, donc il y a d'autres genres de problèmes. Mais là encore, Bahreïn ne va pas s'affronter. Le petit Bahreïn ne peut pas, lui tout seul, s'affronter à l'Iran. Voilà ce que je voulais dire sur ce point.
Alors, pour rester sur la question iranienne, je vous passe la parole à Alain Diekhoff, mais finalement, l'assassinat du scientifique iranien, monsieur Fakhrizadeh, semble porter la signature du Mossad israélien. Que cherchent les Israéliens dans cette affaire, saboter les efforts de Joe Biden à quelques semaines de sa prise de fonction, Alain Diekhoff?
Non, ça je pense pas. D'abord, je ne sais pas évidemment si ce sont bien eux qui ont perpétré cet assassinat. Ce que je peux dire, et ça c'est pas nouveau, c'est que les Israéliens, en tous les cas, les services secrets ont à l'évidence au cours des dernières années utilisé plusieurs moyens pour tenter d'entraver le programme nucléaire iranien, que ce soit en utilisant des moyens pour perturber les systèmes informatiques avec des virus qui ont été envoyés sur les serveurs iraniens, que ce soit par l'assassinat de différents responsables du programme nucléaire iranien. Donc je dirais quelque part, c'est pas nouveau dans le sens où ce sont des moyens qui ont été vraiment utilisés au cours des dernières années lorsque l'opportunité se présentait. Donc je pense que c'est surtout ça. Je ne lirais pas du tout cette action à la prochaine arrivée de Biden au pouvoir aux États-Unis. Alors, en ce qui concerne le rôle, disons, ou plutôt comment évaluer finalement le rapprochement, en particulier avec les Émirats, par rapport à la question iranienne, bien sûr, ça joue un rôle. Hein. Il est évident que même si les Émiratis ont été toujours prudents, en effet, pour ne pas trop s'aliéner les Iraniens, il y a quand même une crainte un petit peu générale, hein, dans la plupart des monarchies du Golfe vis-à-vis de la montée en puissance de l'Iran, réelle ou supposée. D'ailleurs, en tous les cas, cette crainte, elle existe et elle joue un rôle évidemment dans le rapprochement avec Israël. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des intérêts qui sont peut-être plus matériels, mais qu'il faut quand même évoquer. Hein. Il y a une sorte de complémentarité, par exemple économique. Hein. Les Émirats arabes unis, on le sait, sont très riches. Hein. On dispose de beaucoup de ressources financières, ont des fonds souverains importants. Ils sont à la recherche d'investissements et Israël, à l'évidence, est une terre qui est très ouverte aux investissements, parce qu'en particulier tout le secteur, qui est le secteur de pointe high-tech, qui d'ailleurs touche au domaine militaire, hein, et a besoin de ce financement. Donc là, il y a un intérêt, bien entendu, des deux parties qui explique aussi ce rapprochement. Il y a aussi la volonté des Émirats qui est très claire, qui n'est pas nouvelle, hein, qui est de se renforcer d'un point de vue militaire, à la fois directement en accroissant les capacités militaires de leur armée, et aussi, on le sait, en accueillant par exemple des bases militaires, comme d'ailleurs une base française, hein, la seule du Golfe. Là, le rapprochement avec Israël, il est plus tactique. Hein, le rapprochement avec Israël, il est quelque part nécessaire si les Émiratis veulent se doter d'armes de pointe, et en particulier les chasseurs F-35 américains, et ils sont en passe d'obtenir cela. Donc, grâce à cette normalisation avec Israël, donc il y a aussi cet effet un peu induit et qui explique la volonté des Émiratis de se rapprocher. Et derrière tout ça, il y a ce que je disais dans la première partie de l'émission, c'est les recompositions en profondeur du Moyen-Orient qui passent par ce rapprochement, qui se traduisent aussi. Alors ça, c'est peut-être moins spectaculaire en tous les cas aujourd'hui, mais c'est aussi quand même une donnée importante. C'est aussi que le Moyen-Orient, il y a ces réalignements, mais il y a aussi les États effondrés. Hein. Il y a la Syrie, évidemment épuisée par toutes ces années de guerre à la fois civile et aussi avec l'implication d'acteurs extérieur, il y a le Yémen comme État effondré, donc il y a, ça fait aussi partie de ce entre guillemets nouveau Moyen-Orient, et tout cela montre que cette région ne sort pas de la conflictualité, ça c'est évident, ça c'est, il y a une sorte de constance depuis 1945, mais que la conflictualité en même temps a été quand même pas mal transformée, ça n'est plus du tout la même chose que le type de conflictualité qui existait dans les années 60 et 70. Donc il y a quelque chose qui demeure, mais en même temps la configuration, si je puis dire, de la conflictualité n'est plus la même aujourd'hui.
L'évolution de la configuration de la conflictualité. Alors pour ce qui est des États effondrés, je me tourne vers vous, Serge Sûr, le Liban, qui a, de l'avis général, cessé d'être un État, avec un pouvoir plus que jamais dans les mains d'un cartel de partis communautaires. Le Liban, un pays de plus en plus ingouvernable.
C'est une situation qui n'est pas nouvelle. La situation du Liban, on la connaît depuis longtemps. Simplement, ce qui pouvait paraître un peu surprenant, c'est que le Liban était épargné par Daesh, n'était pas directement impliqué dans le conflit syrien, alors qu'on connaît les liens très étroits qui existent entre le Liban et la Syrie. On avait pensé, par exemple, que la FINUL était extrêmement fragile, qu'elle était vulnérable, que peut-être elle ne pourrait pas durer. Or, les choses se passent pas trop mal. Simplement, l'explosion du port de Beyrouth au mois d'août a révélé, a mis au grand jour toute une série de carences, toute une série de scandales qui étaient restés plus ou moins latents. Il faut bien dire que on n'est pas sorti de cette situation, que l'intervention française a été sans effet, et dans une certaine mesure, elle pouvait rappeler la tentative qui avait été faite voici plusieurs années par Bernard Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères, d'intervenir dans l'élection du président de la République libanais sans véritable résultat. Et on a le sentiment que les pays occidentaux n'ont plus vraiment la main, n'ont plus vraiment la prise là-dessus. Alors ça me permet peut-être de faire deux observations plus générales. La première observation, c'est qu'on assiste à un affaiblissement général du monde arabe. Et que, de ce fait, le Moyen-Orient est maintenant dominé par sa périphérie. Que ce soit l'Iran, que ce soit la Turquie, que ce soit Israël, et que ce soit même, dans une certaine mesure, la Russie. Parce que la Russie est, au fond, un État périphérique du Moyen-Orient. Et le désengagement des puissances occidentales est tout de même très sensible dans cette région.
Géopolitique. Alors, affaiblissement, mais finalement, ça me permettra de vous donner la parole à chacun en guise de conclusion. Affaiblissement, mais finalement, qu'en est-il de l'intérêt stratégique du Moyen-Orient aujourd'hui ? Jean-Marc Hou ?
Ben, je crois que ça reste malgré tout, effectivement, on a vu progressivement les conflits se déplacer. On a vu progressivement monter en force des puissances qui apparaissaient comme périphériques. Et effectivement, la Turquie est un bon exemple, puisque je dirais qu'encore pendant la guerre froide, on se demandait même si la Turquie faisait véritablement partie du Moyen-Orient, tellement elle paraissait accrochée à ses alliés occidentaux. Désormais, on a un pays, effectivement, qui joue un rôle important, on l'a vu, même si sa stratégie n'est pas très claire et on a plutôt l'impression d'un pays qui joue des coups tactiques, mais en tout cas, c'est effectivement une puissance régionale qui a son mot à dire aujourd'hui.
François Nicolau.
Alors moi, ce qui me revient en mémoire, c'est cette plaisanterie, disons, qui courait à Washington du temps d'Obama. On disait le Moyen-Orient, quoi qu'on fasse, c'est toujours un désastre. Si on intervient, c'est un désastre, regardez l'Iran. Si on n'intervient pas, c'est également un désastre, regardez la Syrie. Et si on intervient à moitié, c'est aussi un désastre, regardez la Libye.
Alain Diekhoff.
Je trouve que cette remarque de François Nicolau est très très juste, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de stagnation au Moyen-Orient, malgré les transformations en profondeur que j'ai moi-même pu évoquer, mais stagnation dans le sens où on n'arrive pas à sortir de la conflictualité. Mais en même temps, c'est vrai que la diplomatie a été très très active au cours des décennies collées au Moyen-Orient. On ne peut pas dire que c'est une région qui était négligée, hein, y compris par toutes les administrations américaines, quoi qu'on pense par exemple du plan Trump. Bon, il a quand même été actif, et Obama avant lui, il a été, le secrétaire d'État John Kerry l'a été,
mais finalement, ils ne sont parvenus à rien de tangible. Donc c'est un peu ce contraste qui est en effet très frappant, une région finalement dans laquelle les puissances extérieures ont toujours été beaucoup impliquées finalement, en bien et en mal aussi, mais où finalement on n'a jamais réussi vraiment à sortir de l'ornière, et malheureusement je pense que ce n'est pas pour demain.
Merci Alain Diekhoff, je rappelle que vous êtes directeur du CERI et directeur de recherche au CNRS. Merci également François Nicoulot, analyste de politique internationale et auteur du blog À Contre-Courant, Jean Marcoux, professeur et directeur de relations internationales à la Sciences Po Grenoble, et Serge Sûr, professeur émérite à Paris 2, directeur de l'annuaire français de relations internationales et donc coordinateur de la revue Questions internationales, dont le titre du numéro qui nous intéressait aujourd'hui est Moyen-Orient, des guerres sans fin. Je signale également un ouvrage très documenté qui retrace les conditions de naissance du Moyen-Orient à travers les biographies de 12 personnalités anglo-saxonnes. Titre de l'ouvrage « Faiseur de rois, l'invention du Moyen-Orient moderne » aux éditions Ozoni. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.